Bonjour et bienvenue dans La Terre à Boire, ici Alessandra Fotorino. Lorsqu'on déguste, il y a le vin, bien sûr, qui enivre subtilement et rassure. Mais il y a aussi les spiritueux, pour lesquels nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à porter de l'intérêt à des productions artisanales, rigoureuses, qui poussent à l'excellence ces breuvages parfois puissants et pleins de mystères. Pour cette émission, nous partons à la découverte des secrets de la maison Alambic Bourguignon, Sabs, afin d'en avoir le cœur de chauffe net. Une émission en compagnie de Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Romain Corleur. Bonjour Romain.
Bonjour Alessandra.
J'avais mis bonjour Corleur, mais je trouve que c'est pas génial.
Écoute.
Et nous accueillons Mathieu et Amélie Sabag. Bonjour Mathieu et bonjour Amélie.
Bonjour à tous.
Bonjour Alessandra.
Amélie est avec nous et Mathieu, elle est au téléphone. Mais on t'entend quand même, Mathieu.
Oui, mais je suis dans ma Bourgogne.
Ah, c'est parfait. Voilà. Donc tu es en direct de Beaune, du coup ?
Juste dans les hauteurs de Beaune, un petit village qui s'appelle Mavilliers-Mandelot.
Super.
Et en ce moment, l'alambic est à Paris l'hôpital. Voilà.
Parce que l'alambic se promène, en fait.
Oui, mais l'alambic est ambulant.
Et l'alambic est
on
ambulant,
va en parler. Alors, bienvenue à tous. On est très contents de vous recevoir dans La Terre à Boire. On embrasse Valérie et Laurent qui ne sont pas là ce soir, mais qui seront là prochainement. Alors, Patrice, d'où est venue cette idée saugrenue de parler de spiritueux ?
On réfléchissait à une émission autour des spiritueux.
C'est la première fois dans La Terre à Boire qu'on va faire une émission qui n'est pas sur le vin.
Alors, c'est quand
même
sur le vin.
C'est
quand même sur le vin,
c'est
sur le vin, parce que quand on pensait aux spiritueux, on avait pensé à cognac. Et puis, on ne trouvait pas vraiment d'interlocuteur. Et puis, c'est le hasard des rencontres. Hein, au gré d'une petite signature, il y a 10 jours, hein, j'ai croisé Amélie, qui m'a parlé d'Alambic Bourguignon. Gros impact marketing hein, d'Amélie, quand même, sur le... Et en analysant un petit peu tout ça, ça répond à pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on fait des mares, qu'est-ce que ça devient, on sait ce que devient la part des anges, on ne sait pas ce que devient le mar. Et ce projet Alambic Bourguignon m'a tout de suite parlé, donc j'ai souhaité et j'ai proposé à Amélie et Mathieu de participer à l'émission. Donc c'est pour répondre aux spiritueux tout en ayant un trait d'union avec le vin, puisque l'essentiel des spiritueux, en tout cas qu'on va déguster, ont un lien fort avec le vin et son mar.
On a hâte. Mathieu, j'ai lu quelque part que quand tu étais petit, tu aimais les mignonnettes sans les boire. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet un peu fou ?
Alors, la genèse n'a pas grand-chose à voir avec les mignonnettes, mais c'est vrai que mon grand-père et mon père, qui voyageaient beaucoup, m'ont toujours amené des mignonnettes, et c'est peut-être là qu'est née ma passion pour les spiritueux. Après ça, j'ai avec Amélie, on a habité dans pas mal de pays dans le monde, et puis j'ai fini dans un grand groupe de spiritueux français, où j'ai travaillé il y a 10-15 ans au renouveau des spiritueux français qui étaient l'absinthe, les amers et tous ces beaux apéritifs à la française. Et en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait, au début du siècle dernier, énormément de produits et de distilleries qui existaient en France, qui avaient disparu. Quand je suis parti de ce grand groupe de spiritueux, je me suis mis en quête d'une belle endormie, et puis j'ai voyagé dans toute la France pour aller voir des distilleries de Brive-la-Gaillarde, en Alsace, en Bourgogne, en Bretagne, et puis je suis tombé sur celle-là en Bourgogne, qui correspondait pas tout à fait à ce que je cherchais, à savoir je cherchais une marque qui avait disparu, qui s'était endormie, et puis je suis tombé sur une appellation qui a quasiment disparu, et qui s'est endormie, et qui était le Mar de Bourgogne. Une distillerie qui a pas mal de caractéristiques. C'est une distillerie qui est ambulante, donc qui se déplace dans les villages comme ça se faisait autrefois. Il faut savoir qu'en Bourgogne, il y avait un distillateur dans chaque village. Aujourd'hui, on est quasiment le dernier à faire ce métier. Et donc,
métier de bouilleur de cru.
Alors, je crois que c'est bouilleur
alors,
ambulant.
Non, pas de bouilleur de cru.
Bouilleur de cru, voilà. C'est différent. Le bouilleur ambulant se balade avec son alambic, si je ne dis pas de bêtises. Et le bouilleur de cru, c'est celui qui fait les fruits et qui reste sur place. C'est ça, Mathieu ?
Ouais, non, le bouilleur de cru, c'est celui qui amène son cru à l'alambic. À Cognac, tous les vignerons qui amènent leurs fruits, leur vin à distiller et qui vont récupérer leur alcool sont des bouilleurs de cru. Hein, donc, le bouilleur de cru, c'est celui qui amène le fruit de son verger. Et son verger peut être des vignes. à l'alambic et qui va récupérer son alcool. Voilà. Donc, qui va le récupérer pour l'élever ensuite. Donc, nous, tous nos spiritueux sont issus du vin. Et en fait, quand j'ai repris cette entreprise qui existait depuis 1941, à deux frères qui souhaitaient faire autre chose, qui étaient vignerons par ailleurs et qui a un grand domaine en Bourgogne et qui ne pouvaient plus tout faire, ils travaillaient quasiment que à façon pour d'autres vignerons et puis pour les licoristes bien connus en Bourgogne. Et donc, ils produisaient du Marais de la Fine de Bourgogne pour des grands domaines tels que les Hospices de Beaune et plein d'autres maisons prestigieuses.
C'est la famille Pigneret, c'est ça ?
Tout à fait, qui sont basés à Morauge, à côté de Givry, en Côte-Chalonnaise, un domaine d'une trentaine d'hectares. C'est déjà pas mal. En Bourgogne, dans d'autres régions, ça pourrait paraître tout petit, mais en Bourgogne, c'est plutôt grand, sachant que la superficie moyenne est plutôt aux alentours de 4-5 hectares. Mmh. Voilà.
Alors, Amélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la distillation de votre alambic ?
Alors ça, c'est plutôt pour Mathieu.
Oui, j'ai déjà parlé du côté ambulant. On distille les coproduits de la vinification, les résidus de la vinification. Donc, quand on distille les résidus de la vinification, ce sont principalement deux produits. Le premier, c'est les mares, donc c'est ce qui sort du pressoir après avoir fait le vin. Donc, les raisins, donc la peau des raisins, les pépins, quelquefois les grappes. Bien souvent, on travaille sur des marais grappés. Et donc, avec ça, on va produire le marc de Bourgogne, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, avec les lits et le vin, on va produire la fine. Il faut savoir que les grandes appellations connues de marc sont la grappa, et les appellations connues de fine sont le cognac et l'armagnac, qui sont des fines de la région de Cognac ou de la région du Gers pour l'armagnac. Donc, nous, on produit du marc de Bourgogne, qui est issu des marcs de raisin, des cépages principalement Pinot Noir et Chardonnay, et pareil pour les lits qui sont les résidus à la fin de la vinification. L'alambic, c'est un alambic qui a été fabriqué en Allemagne, qui est une réplique de vieux alambics traditionnels bourguignons, qui est un alambic qui est chauffé à vapeur, c'est très important, c'est obligatoire dans l'appellation, et c'est un alambic à trois vases en cuivre. Donc trois vases, ça permet d'être plus efficace, c'est-à-dire que vous avez toujours un vase qui travaille pendant qu'il y a un vase qui repousse et un vase qu'on préchauffe.
Et Mathieu, ça permet de travailler. En Bourgogne, on a un alambic à vapeur. À Cognac, c'est des alambics à feu, c'est bien ça ?
En Bourgogne, c'est soit à feu nu, soit à vapeur.
Vous, c'est
à
vapeur.
À Cognac, quand on distille des liquides, comme le vin à Cognac ou le whisky, on va être principalement sur des alambics à feu nu. C'est-à-dire que vous avez la flamme directement sous l'alambic, donc on va être sur une distillation à très haute température. Alors certains vont y trouver des avantages, d'autres des inconvénients. La distillation à vapeur permet d'avoir une distillation très douce et permet d'avoir...
C'est comme quand on fait de la sauce au chocolat, le bain-marie, c'est mieux que de le mettre directement dans la casserole.
Exactement. C'est ça.
Voilà. Alors, et le troisième type d'alambic, est tout à fait, c'est des alambics à bain-marie, c'est ce qu'on va retrouver principalement en Alsace. Et dans les néo-distilleries, c'est ce qu'on va retrouver en Alsace, parce que quand on fait des fruits, il reste encore du sucre dans la matière que l'on va distiller. Et donc, il faut faire ça tout doux, parce que sinon, ça va caraméliser au fond de la casserole. Hein, parce que je dis la casserole parce que, en fait, la distillation n'est ni plus ni moins que la cuisson. Le travail du distillateur, c'est ni plus ni moins le même travail qu'un cuisinier. Et je dis ça pourquoi ? Parce que le plus important dans la cuisine, même s'il y a des très grands cuisiniers, ça reste avant tout la qualité de la matière première. Et là, on a une chance extraordinaire de travailler avec presque tous les plus grands vignerons de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune qui nous apportent une matière qui est dingue. Et c'est là où ça prend tout le sens de parler de spiritueux dans votre émission, parce que on fait des spiritueux avec le vin.
On est en train de goûter, en même temps que tu nous parles, la fine, tous ensemble.
Ça fait du bien.
Alors la fine,
réchauffe.
On a plusieurs fines dans la gamme, mais c'est vraiment notre fine, entre guillemets, générine. C'est une très vieille fine de Bourgogne.
D'accord.
Donc c'est une fine qui a 8 ans d'âge. Sur les appellations Marais et Fines de Bourgogne, on n'utilise pas des termes anglo-saxons tels que IPSO, donc extra old, very special old pale, etc. On utilise vieux, très vieux ou hors d'âge. Et donc là, vous avez une très vieille figue qui correspond dans d'autres régions viticoles à du IPSO. On est sur quelque chose qui a été vieilli en des petits fûts bourguignons, donc des fûts de 228 litres, pendant 8 ans. Des fûts qui avaient contenu précédemment principalement du Puligny du Meursault. Et donc, on est sur quelque chose de très rond, de très long. La distillation à la vapeur
dire quelque chose, Mathieu.
J'avais juste une question, parce qu'on parlait de cuisine. Juste pour revenir bien clairement sur les ingrédients. Quelle différence entre le mar et les lits? Première question. Et deuxièmement, dans le cucurbit, je crois que c'est ça comme ça qu'on appelle le récipient, qu'est-ce qu'on met dedans du coup?
Alors, le mar, c'est les raisins. Hein. C'est vraiment la peau des raisins. Très, très clairement, on presse les raisins, on récupère la peau. Et c'est pour ça qu'on a un alambic à vapeur aussi, parce que quelque part, c'est une matière solide. C'est vraiment comme, pour faire une image, parce que comme je suis loin de vous, je ne peux pas vous faire de petits dessins, c'est comme des raisins de Corinthe, c'est des raisins secs, hein,
le résidu
qu'on met dans l'alambic directement.
Mais tu dis, Mathieu, que selon les domaines, il arrive qu'il reste même de la pulpe, parce que certains domaines pressent le moins possible pour avoir
la qualité
le
des vins.
Exactement.
Oui,
donc tu as des mares qui sont sublimes quelquefois et qui contiennent encore de la pulpe de fruits.
Voilà, et on y viendra sur un des autres produits que tu vas faire déguster par la suite. Et ça dépend aussi des années.
Si on tient le coup.
Voilà.
On a tout vu.
Ça dépend des années, mais c'est vrai que, notamment une année comme 2023, où on a eu une vendange généreuse, les vignerons ont tendance à moins presser. Et donc, on a des mares qui sont encore extrêmement juteux, et donc ils contiennent une partie de vin. Et ça, c'est les premiers mars qu'on distille au tout début, parce qu'après ça, il faut conserver tout le secret de faire des beaux produits aussi, c'est de réussir à conserver au mieux ces mars pour les distiller le plus frais possible.
Et les lits, alors?
Et les lits, c'est ce qui reste au fond des tonneaux à la fin de... avant le soutirage, pendant le soutirage.
C'est le résultat du travail des levures, en fait, les lits.
Voilà, voilà. Il y a d'un côté, en gros, c'est d'un côté le marc, c'est une matière solide, et les lits, plus ou moins fines, c'est de la matière liquide.
Et qu'est-ce qu'on met dedans, alors?
Certaines maisons de cognac.
On met de l'alcool? Qu'est-ce qu'on met?
Ah non, il n'y a pas d'alcool. L'alcool, le travail du distillateur, c'est d'aller chercher l'alcool qui reste.
D'accord, c'est ça. Donc
c'est bien de le dire. Parce que
non, mais on rajoute quelque chose ou on fait juste cuire.
Ah non, on ne rajoute rien.
D'accord, okay.
Nous, dans nos spiritueux, l'alcool, c'est le même alcool que dans le vin. Il est juste plus concentré.
D'ailleurs, Mathieu, tu peux peut-être nous dire combien il nous faut de litres de fine pour faire un litre de litre de lit pour faire un litre de fine.
Excellente question.
Alors je vais parler en bourguignon, je vais parler en pièces.
Oui. Hein,
il faut à peu près 25 hectolitres, donc 2500 litres de lit pour faire une pièce de 228 litres de fine.
D'accord, donc c'est 10% quoi.
Voilà, c'est à peu près 10%, et sachant que ça fait de la lit et ça fait beaucoup de vin, puisque sachant que les vignerons en moyenne font à peu près 3% des volumes de vin en lit.
Ok. On prend 100 de vin, et il y a 3 de lit, et de avec lit, ces 3 de lit, vous faites 0,3 de fine.
De fine.
Exactement.
Ouais, c'est bon, je l'ai.
Donc, très donc, luxueux.
Quand on fait de la fine de Montrachet, par exemple, vous imaginez ce qu'il faut comme vin pour faire de la fine.
On imagine bien.
Et on n'a pas précisé, mais peut-être que tout le monde le sait, mais les vignerons ont l'obligation légale de donner et leur mare de raisin et leur lit de vin au distillateur.
Et aux pharmacies aussi, je crois.
Mathieu qui va répondre.
Alors, ce qu'Amélie dit, c'est que les vignerons doivent livrer à une distillerie les résidus.
Elle a dit donner, ils donnent ou ils vous revendent cette matière première?
Non, ils livrent et donnent pour s'acquitter d'une taxe qui s'appelle les prestations viniques. Et donc nous distillons et cette distillation va apurer, c'est un terme un peu technique, les prestations viniques C'est quelque chose qui a été fait à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour garantir la qualité des vins français. Donc ça, c'est très important. Et en fait, les vignerons devaient livrer leurs mares, principalement les mares, hein, les lits aussi, mais principalement les mares, pour s'assurer de deux choses. Éviter, un, le surpressurage. Donc, c'est-à-dire que...
Pour la qualité des vins, finalement.
Pour la qualité des vins, exactement, pour garantir la qualité des vins. Puisque si vous pressez trop, si vous essayez d'extraire trop, vous allez avoir des mauvais goûts. Hein. Ça, c'était la première chose, éviter le surpressurage. Et deuxième chose, éviter de faire des piquettes. Hein. Alors, les piquettes, les gens disent c'est du mauvais vin. En fait, la piquette, c'est pas du mauvais vin. La piquette, c'était on prend des mares de raisin, on rajoute de l'eau, on rajoute du sucre et on refait une fermentation. Et ça vous fait un espèce de faux vin.
Délicieux.
Au secours.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est interdit d'utiliser le mot piquette aujourd'hui pour beaucoup de vignerons.
C'est interdit. Et vous avez pas mal de néo-vignerons, notamment aux États-Unis, dans le monde du vin nature, etc., qui se remettent à faire des piquettes, qui font des choses qui sont assez agréables, parce que j'ai pu en goûter, qui sont très frais, avec des faibles degrés alcooliques. C'est assez rigolo. Voilà.
C'est très chouette à boire. Il y a pas mal de vignerons français qui se remettent aussi à faire de la piquette sans pouvoir l'appeler piquette, bien sûr. Mais...
Hyper vendeur, piquette, de toute façon.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette fine, en fait, à part qu'elle est ronde et...
Moi, j'en ai plus dans mon verre.
Moi, j'y vais doucement. Je trouve qu'il y a une super texture qui est hyper soyeuse. Il y a ce côté un petit peu boisé, finement boisé, qu'on retrouve. Ces notes un petit peu de sous-bois. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
On sent l'alcool au nez, mais on ne le sent pas du tout en bouche.
C'est ça.
Donc, il y a une certaine évaporation alcoolique, on va dire. Mais en bouche, c'est très, très, très rond, très gourmand, très suave. Ça évoque... Je vais dire ça comme ça, mais ça évoque un peu certains cognacs, mais sans avoir cette sécheresse. Donc je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable que, en tout cas, le cognac classique. Quoi.
Oui, presque un peu plus gourmand. Il y a une élégance, il y a une finesse dans la texture.
D'où le nom, peut-être.
Il y a beaucoup de fines champagnes en cognac. Hein. Je dirais, moi, le plus important, en fait, c'est les cépages d'origine. Vous avez un cognac en Armagnac, principalement de l'Uni Blanc, du Colombard, et nous, on travaille du Pinot Noir et des Chardonnays. Donc, c'est comme si vous comparez
dit-il avec une forme de contentement.
On passe le bonjour à nos amis de cognac, que l'on salue.
Voilà, qu'on aime beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup de vins de Saint-Onge qui sont dans les grandes tables. Il y a quelques vignerons qui travaillent très, très bien, mais c'est vrai que c'est des vins qui sont principalement destiné à la distillation, avec des très gros rendements, puisqu'on est sur des rendements à 200 à 300 hectares, et qu'en Bourgogne, on est plutôt de l'ordre de 20 entre 20 et 40 hectares. Donc, on n'est pas du tout sur la même matière première, encore une fois.
Oui, je voulais juste, parce qu'on a parlé un petit peu de l'alambic, je voulais juste remettre un peu une perspective historique. On fait de l'alambic depuis plus de 3000 ans, et enfin, le nom vient en fait de... Vase, hein, en bix, en grec, ça a été repris par le monde perse arabe, et c'était alimbic.
Ils parlent toutes les langues, wow. C'est merveilleux.
Non, mais
le terme alimbic vient de là. Et donc c'était
le perse.
La première utilisation donc de l'alambic est prouvée par une écriture cunéiforme qui date de Babylone, donc 1200 avant Jésus-Christ. Ouais. C'était une parfumeuse d'ailleurs, parce qu'on utilise d'abord l'alambic pour les parfums, et ça date la première preuve de l'existence de l'alambic date de 1200 avant Jésus-Christ, et c'était Tapouti, donc la première chimiste était une femme, en tout cas sur les écritures babyloniennes, et c'est un travail du parfum d'abord au départ qui a créé ce processus de l'alambic. C'était juste pour...
Génial.
Pour placer ça. Et est-ce que c'est un métier de parfumeur, du coup, ce que vous faites ?
Ah, c'est complètement un métier de parfumeur. On va déguster d'autres produits, si vous arrivez à aller jusque-là. mais je dis toujours, il y a le côté cuisinier, il y a le côté magicien, et il y a le côté parfumeur. En fait, le parfumeur, nous, notre métier, c'est de concentrer les arômes et de concentrer les alcools. Donc, quand il y a des gens qui me disent « Ah non, mais je ne bois pas de fine, je ne bois pas d'alcool. » Je dis « Vous venez de boire du vin. » C'est exactement le même alcool, c'est exactement la même molécule. Elle est juste un petit peu plus concentrée. Et après ça, le travail du distillateur, c'est d'aller concentrer les arômes, d'aller concentrer les terroirs et tout le travail. Bon, ça fait pas longtemps que je fais ce métier-là avec mes équipes. Ça fait c'est la sixième campagne de distillation, 5 ans que nous avons repris la distillerie avec Amélie. Et demain, j'espère qu'on soit capable de faire un marc de Claude Bèze, un marc de une file de Montrachet. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compte tenu des volumes qu'il faut pour produire un litre de marc ou de fine, ça va être des produits d'exception.
Du coup, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on passe au prochain spiritueux, d'où vient la bouteille étalon de Sabs ?
Elles sont magnifiques, ces petites bouteilles.
Alors, merci. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette bouteille. Il y a tout d'abord le côté pharmaceutique des spiritueux, hein, parce que j'ai pas retenu votre nom sur l'étymologie, mais sur l'histoire des alambics. Mais avant toute chose, les spiritueux étaient utilisés comme médicament.
Fortifiant, hein, il me semble.
Antiseptique.
Fortifiant.
Tonifiant, antiseptique,
c'était
etc.
Hygiénique, donc, c'est ça.
Hygiénique, voilà. Et quand on visite à Beaune les hospices de Beaune, où il y a la pharmacie qui est bien connue, eh bien, la pièce juste avant, vous avez les alambics. Et en fait, donc, c'est toute cette idée de la pharmacopée et, qui vient autour des spiritueux. Qui m'a inspiré dans la création de ce flacon. Et donc, on a essayé de refaire un flacon pharmaceutique ciré, avec ciré comme les bouteilles de vin des grands vignerons bourguignons. Et après ça, l'idée, c'était de faire une bouteille qui soit très facilement prenable dans la main pour les barmanes, notamment.
Pour la mixologie, du coup, c'est la question que je voulais
poser. Pour la mixologie, voilà.
Okay. Voilà, l'art des cocktails.
Qui verse très bien. L'art du cocktail, l'art de mélanger les breuvages. Je voulais une bouteille qui soit très facile à prendre dans la main. Je voulais une bouteille qui soit légère pour deux raisons. Un, parce que quand les barmans et les filles du bar travaillent avec ces bouteilles toute la soirée, eh ben, à force de verser, c'est lourd. Et deuxièmement, sur l'empreinte carbone de ces bouteilles, il est bien évident que quand j'ai une marque que j'avais créée destinée à l'export, il faut aussi penser à ce que ça va donner en termes de transport. Le poids de verre, c'est important. Donc, on a la bouteille aujourd'hui des spiritueux qui est la plus légère du marché. Donc, c'est aussi bien un côté de l'usage des personnes qui travaillent avec cette bouteille que de l'empreinte carbone sur le transport.
En termes de contenance, on est à 50 centilitres, hein, pour info. Et c'est assez pratique parce que on peut, à la maison, tranquillement, on peut dire j'ai un petit peu mal à la gorge, je vais prendre un peu de sirop pour la toux. Et on peut prendre une petite fine dans la cuillère.
Mais c'est comme ça que les vignerons soignent leurs maux. Hein. Moi, la première fois que j'ai eu une angine en Bourgogne, Monsieur Bouzereau, qui est vigneron à Meursault, m'a dit « Prends-y un petit coup de marc, tu vas voir, ça va repartir. » Et je l'ai fait.
Et c'est reparti.
Oui, c'est totalement.
Ça fonctionne très bien.
Juste pour revenir une dernière fois sur l'alambic, parce qu'il y a plusieurs passages, hein. Il y a plusieurs distillations. Il y a une distillation, deux distillations. Quand on dit un alambic, il peut y avoir une seule distillation, il peut y avoir deux distillations, il peut y avoir trois distillations. Donc, les whisky, en général, c'est
il peut y en avoir 25, si
oui, enfin, sur les mainstream, on va dire, c'est 1, 2 ou 3. Et comme dirait Pierre Auvernois, c'est pas on met les produits dans la cucurbite et les petits oiseaux chantent et puis on laisse tomber. C'est justement tout le calcul de la bonne cuisson, parce que ça dégage aussi des alcools négatifs, qu'est-ce que ça s'appelle, les méthanols, qu'il faut mettre de côté. Et c'est plutôt l'éthanol qu'il faut, je dirais, optimiser et pousser. Et c'est plutôt cette partie-là qu'on récupère pour ce qu'on retrouve dans la bouteille. Donc voilà, c'est toute une gestion technique. C'est pas juste on met, on fait cuire et c'est la machine qui fait le travail.
Alors, oui.
Justement, voilà, c'était juste pour dire que c'est pas.
C'est toi, Mathieu,
c'est un certain travail.
C'est toi, Mathieu, qui t'occupe de ce dosage.
Si c'était comme ça, ce serait simple. Alors c'est moi et Paul, mon distillateur principal. On a aujourd'hui trois distillateurs qui travaillent à la distillerie. Moi, j'essaie de distiller presque toutes les semaines. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais si j'ai acheté une distillerie, c'est parce que j'avais envie de distiller. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la France, que je fais beaucoup d'administratifs et je passe un peu moins de temps à la distillerie. Mais j'essaye à chaque lot d'intervenir sur les recettes, sur la façon de distiller. Après ça, comme on travaille avec plus de 250 vignerons, c'est assez compliqué parce que on fait que des petits, ce qu'on appelle dans le monde de la distillerie, des small batch. C'est toujours des petits lots et ça change tout le temps. Donc à chaque passage de chaque alambic, il faut goûter, il faut sentir, il faut vérifier et faire le travail dont vous parliez, qui est de couper les têtes et les queues de distillation. Et c'est là que s'exprime tout le travail du distillateur. C'est vrai que ce qui sort au début de l'alambic, En plus du méthanol, il y a pas mal d'ester et
des impuretés, en fait.
D'éthanol et des impuretés. Mais ça, encore une fois, ça vient aussi grandement de la matière première, hein, parce que il y a certaines matières, notamment l'acide acétique. Si vous avez une piqûre acétique dans un vin qui est livré à la distillerie, ça va passer à la distillerie, ça va être concentré derrière et ça va pas être bon. Donc, il faut aussi identifier avant même que ça soit dans l'alambic. Les problèmes qui pourraient arriver.
Puisqu'on est sur des termes français, garbage in, garbage out. Hein.
Ouais, ben voilà, exactement. Hein, tout à fait. On n'est pas des magiciens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent on a raté ce vin. Non, pas du tout. On a raté ce vin. C'est comme les cuisiniers. Si la matière première n'est pas belle, on ne va pas réussir à faire un grand plat. Même en mettant une très belle sauce, c'est difficile de masquer tous les défauts. On arrive à faire certaines choses. On arrive à éliminer un certain nombre de choses, mais encore une fois, le plus important, c'est la matière première. Et nous, on n'est que là pour la sublimer.
Du coup, il y a quelque chose d'un peu vivant dans cette idée d'être ambulant, puisque tu t'adaptes finalement à chaque matière première que tu vas avoir. Donc, tu auras des spiritueux qui auront vraiment une identité.
Qui ont vraiment une identité, une âme. Chacun est l'image du vigneron, chacun est l'image de la période, chacun est... et le fait d'être ambulant et d'être dans les villages, on est au plus proche du vignoble et on est au plus proche des vignerons. Et d'ailleurs, c'est un grand moment de communion avec les vignerons parce qu'il y a toute une vie autour de l'alambic. Ce n'est pas que juste de la distillation. Il y a les vignerons qui vous amènent leurs produits à distiller et puis on va partager... un casse-croûte autour de l'alambic où on va cuire les saucisses.
Qu'est-ce que c'est alors les casse-croûtes de l'alambic ?
Les casse-croûtes de l'alambic, c'est quand on se retrouve.
Nous, on veut bien venir.
Vous êtes invité.
Avec grand plaisir. Les casse-croûtes de l'alambic, c'est un vrai moment de communion entre les vignerons et les distillateurs et les bons vivants qui sont dans le village. C'est un petit peu avant midi, on partage un petit bout de saucisse, un petit bout de pain.
Non, mais t'as rien inventé, Mathieu.
Un petit bout de saucisse, bout de vin. Ouais, il y a du bœuf wagyu dans le cucurbit.
Aussi. Ah oui, simple.
Voilà, oui, ça arrive aussi. Oui.
Mathieu, t'oublies de dire
c'est des saucisses Herta et puis de la purée.
Ah non, jamais de la vie.
Non, pas trop. Non,
les bouilleurs ont toujours fait ça. En fait, ils faisaient cuire le cochon. On voit des bouilleurs en Savoie qui faisaient ça. Et donc, nous, on s'est contenté de continuer ce que nos prédécesseurs faisaient. Hein. Donc, on met l'amorteau principalement, le jambon, le lard, les pommes de terre. Et on a tout essayé. Oui, Mathieu a mis un train de sanglier. Moi, je suis une fan de la canette cuite à l'alambic. Après, la chair se détache avec les doigts. En fait, il faut qu'il y ait du gras parce que c'est le gras qui prend l'odeur du marc.
Tu veux dire que vous mettez la viande
dans la cuve.
Dans la cuve.
On a comme des paniers vapeur.
Dans le cucurbit.
Ouais. Okay. Ah oui. On a des paniers vapeur.
C'est une tradition, en fait, ça. Parce que
c'est beaucoup, une vraie tradition.
Ouais, beaucoup de distillateurs m'ont parlé de ça, justement.
J'ai plein de questions, en fait. Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi. Et combien il y a de cuvées ? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois que vous débarquez quelque part, vous distillez les raisins de tel domaine, ça donne une cuvée, ça donne ce que tu appelles small batch, c'est quoi, en fait ? C'est un certain nombre de litres de ça, ou Sabs, là, Amélie a eu la gentillesse de nous apporter quand même 6 bouteilles. Est-ce que c'est un nombre fini de cuvées, ou est-ce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais
ça pourrait ne jamais s'arrêter. Alors, j'ai Nina qui s'occupe du marketing chez moi, qui aimerait bien que ça s'arrête, mais il y a toujours une rencontre avec un vigneron, toujours un produit qui est différent d'un autre.
Mais du coup, tu crées une étiquette à chaque fois ?
Alexandra le disait. Bah non, justement, on essaie de rationaliser un petit peu quand même. Voilà. Donc, la fine... on a en fait dans la gamme, on a 4 produits qui sont les produits qu'on a tout le temps. On a la fine, le mar, le gin et la poire.
Justement, on est en train de goûter le mar.
On va passer au mar, c'est marrant, donc, c'est très différent, je trouve.
Oui, c'est super différent.
Ça n'a rien à voir.
Il y a ce côté petit raisin un peu sec, justement, en finale. Et qu'est-ce que vous en pensez, du coup, à la dégustation ?
Moi, j'adore, ça me rappelle, j'avais un vieux copain qui venait et qui disait c'est le mar de mon papo, c'était son arrière-grand-père ou je sais pas quoi. Et c'était compliqué, on buvait ça et voilà. Là, c'est quand même bien meilleur.
Moi, je suis dans
c'était
les
un truc
rappels.
Artisanal. Là, c'est vraiment de la dentelle, quoi. C'est du mar. Je retrouve ce goût-là qui est quand même unique, hein, le goût du raisin. Enfin, c'est difficile à définir, mais vraiment en dentelle, quoi. C'est-à-dire, waouh. C'est fin,
moi, je trouve le nez plus agréable que la fine parce qu'on a moins l'alcool au nez, on a déjà beaucoup plus d'arômes et de saveurs. Je trouve un peu plus sec et un peu plus direct en bouche que la fine. Il est beaucoup moins rond. Mais effectivement, on a le côté, désolé, c'est pas très original, mais un côté un peu raisin de Corinthe, raisin c'est séché.
Cake aux fruits confits aussi, un petit peu.
Cake aux fruits confits.
Il y a des notes un petit peu de fruits secs. C'est un côté un petit peu plus animal, un peu sous bois. Et le mar, pour moi, alors la fine est plus appréciée ou plus valorisée, mais pour moi, le mar est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant.
Moi, je suis dans des belles grappas de chez moi, italiennes. Il y a vraiment quelque chose qui me rappelle la grappa.
La Creuse, l'Italie. Chose de... alors,
ah, bah, écoute, hein, t'as pris quelqu'un avec multi-origines. Mais il y a ce côté raisin sec, justement. Je trouve qu'on va directement dans le goût, dans le raisin. Ça tranche direct. C'est hyper intéressant.
C'est super bon ce que vous faites.
Et ça marche très, très bien en cuisine. Ça marche. Il faut aussi le dire que, par exemple, on est là pour défendre une grande appellation de fromage qui a été élu meilleur fromage du monde récemment. Les époisses sont des époisses car elles sont affinées au mar de Bourgogne, sinon ce seraient des sous-maintrains.
Et moi, au début, quand tu as repris la distillerie, j'avais l'habitude du mar de mon grand-père qui était franchement pas fameux.
C'est ça.
En Haute-Saône. Et donc Mathieu me dit oui, le mar, c'est extraordinaire. Alors moi, j'étais très partante aussi.
C'est une question de séduction, non? Ouais. Le mar, c'est fabuleux.
Et finalement, plus j'en bois et plus je veux en boire.
Plus t'apprécies.
Ah oui, j'apprécie beaucoup. Et alors, il y a un petit truc aussi qui est sympa, c'est d'en mettre une demi-cuillère à café dans son café. Ça, c'est un petit dessert.
Un biberon des enfants également.
Ça, c'est pour Alexandra et le côté italien.
Je penserai à mon fils avec ça, tiens.
Ça s'appelle le café bourguignon.
Eh oui.
Ok, super intéressant.
Vous mettez votre doigt dans le verre et vous frottez sur le plat de la main et vous allez voir.
Ça enlève les taches,
c'est incroyable. Vraiment les arômes. Et là, on est comme. Non, mais c'est comme le parfumeur, là. On est vraiment sur...
Et tout le monde s'exécute, Mathieu. Hein. T'es même pas le voir pour le voir. Et tout le monde le fait.
Moi qui l'ai fait 150 fois, je recommence.
Pourquoi ? Laissez tomber Chanel numéro 5.
Ah non, moi,
mettez du mar de Bourgogne.
J'ai le raisin de Corinthe qui revient, quoi. C'est incroyable. Puis ça persiste.
C'est la concentration, c'est vraiment les arômes. C'est très long. C'est vraiment les arômes du raisin. Et c'est ça le travail du distillateur, c'est de capturer l'âme du fruit.
Et du coup, quel est le temps de distillation de tes différents produits ? Parce que alors, il y a une, si j'ai pas de bêtises, il y a une vingtaine de, tu fais une vingtaine de produits à peu près ?
On fait une quinzaine de produits.
Quinzaine, d'accord.
Produits, mais on en a beaucoup plus en dans les chais. En fait, c'est assez rapide parce qu'on a des petits alambics. Et la vapeur, c'est très efficace. On a des alambics qui font chacun, et ça, c'est régi par l'appellation aussi Marais Fine de Bourgogne, qui font maximum 600 litres. Le nôtre font 550 litres. Et en gros, pour une cuite d'un vase...
Une cuite, c'est ça le terme ?
Oui, j'ai compris une cuite, moi aussi. Oui, une cuite,
oui,
bien sûr.
Oui, parce qu'on cuit... On,
d'où
on,
le terme ?
On fait une cuite.
C'est cuisson, normalement, le...
Voilà, on parle de cuite.
Le studio est envahi par l'alcool.
Il y a un terme comme ça un peu imagé, voilà. Une cuite, c'est à peu près une heure. En gros, il y a 20 minutes de préchauffe, 20 minutes de cool et 20 minutes de repousse, voilà. Donc, en gros, c'est les têtes, le cœur et la queue, si on résume. Et donc, chaque distillation, c'est à peu près une heure. On travaillait jusqu'à il n'y a pas longtemps, 24 heures sur 24. Maintenant, dans les villages, on a le droit de distiller que de 6 heures du matin à 19 heures, pour ne pas déranger le voyaginage.
Est-ce que ça sent autour de l'alambic ? Est-ce qu'il y a un parfum ?
Un petit peu
si,
quand même.
Si, quand on rentre dans la distillerie, ça sent très bon, Mathieu, ça sent le mar.
Oui. Non, mais,
dans les villages, j'imagine, avec le...
Mais dans les villages, on est à l'air libre. Il y a... Non, oui, ça sent, ça sent l'odeur de l'alambic, mais plutôt une bonne odeur qu'une mauvaise odeur, voilà.
Oui, mais ça, j'en doute pas.
Je crois qu'on va commencer à déguster le gin, le classique.
Ah. Alors là, on est sur un produit complètement différent. Mais qui a une histoire, qui est une histoire rattachée à la Bourgogne et au vin. L'idée, c'était de faire un gin, parce que c'est un petit peu plus connu et plus à la mode que le mar et la fine de Bourgogne, même si j'ai vraiment envie de relancer le mar et la fine de Bourgogne. Le gin est quand même plus nouveau, plus jeune, Et on a quand même essayé de faire un gin qui soit ancré dans le terroir avec deux choses. Alors, la première idée, c'était que j'allais chercher tous mes genévriers en Bourgogne parce que le genévrier est un conifère endémique de Bourgogne. Et c'est pour ça que vous avez un morceau, une parcelle qui s'appelle, un premier coup de morceau qui s'appelle les genévrières. C'est parce qu'il y avait des genévriers à cet endroit-là.
Donc là, on n'a pas de raisin. Le gin, alors, c'est un alcool de genévrier.
C'est des plantes aromatiques.
Non.
Et du blé français.
Alors,
explique-nous.
Voilà, c'est macéré. Le gin, il faut partir d'un alcool neutre à 96 d'origine agricole. Ça, c'est la législation. Et donc, on part d'un alcool de grain français, donc de blé français, que j'achète à 96, puisque mon alambic ne permet pas de monter à 96. Et je fais une macération de 15 botaniques dans cet alcool neutre, principalement du genièvre. Après, ensuite, on a de la coriandre, on a des citrons, on a de l'orange amère, de l'amande amère, de la badiane, de la cannelle.
Oh, c'est vrai qu'il est bon. Hein. C'est très herbacé,
voilà,
effectivement.
Très aromatique.
Très floral. Et ensuite, on va rajouter de l'eau de vie de pinot noir et chardonnay, en fait, donc de la fine de Bourgogne, mais non vieillie,
c'est super fin,
pour donner cette rondeur que vous avez en fin de bouche. En général, le gin est plutôt quelque chose qui doit être bu mixé. Et l'idée du nôtre, c'est qu'il peut être, bien sûr, bu en gin tonic, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'est bu le gin. C'est peut être bu dans les cocktails, avec plein de cocktails à imaginer, et plein de classiques. Et puis aussi, il peut être bu comme ça, en digestif.
Ah bah là, l'alcool ne prend pas le dessus. Il y a quelque chose d'aromatique, de fin, c'est doux.
Je dis n'importe quoi ou ça me rappelle des chartreuses, des bonnes chartreuses des Alpes.
Ouais,
c'est rare d'en boire des bonnes, mais
ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de plantes et à la différence de la chartreuse, il y a zéro sucre puisque c'est pas une liqueur,
exact,
c'est vraiment
c'est
une
pas sucré.
Et donc, c'est que les aromates, c'est que les herbes.
Simple ou double distillation là sur le gin.
On est, en fait, nous,
chartreuse dans l'an, c'est simple.
Permet de faire en une seule fois en simple distillation.
Simple, d'accord.
Voilà. Voilà.
C'est merveilleux ce que vous faites. On a... Qu'est-ce qu'il nous reste à goûter ?
Le gin Pinot.
Le Pinot gin.
J'ai une petite question, Mathieu. Est-ce qu'il y a un spiritueux de chez toi que tu recommandes avec un cigare ?
Alors oui.
Ah, c'est marrant parce que j'en profite parce que j'ai pensé au cigare quand il a dit le début, le milieu, la fin. Là, tu sais, dans le cigare, on dit le foin, le divin,
oui,
le purin,
oui,
et c'est le milieu
le purin,
qui est meilleur.
Ouais.
Vas-y, réponds maintenant.
Alors,
j'ai fait bon maintenant.
Pour le cigare, je recommande. On a fait un truc un peu fou. J'ai mis des mares et des fines d'ailleurs dans des fûts de whisky et des whisky tourbés d'Écosse.
Ouais.
Et en fait, l'idée m'est venue parce que si on regarde bien, le whisky c'est aujourd'hui très connu et très populaire en France, mais ce n'est pas un alcool français d'origine. C'est vraiment quelque chose qui venait principalement d'Écosse. En France, on buvait de la fine et on buvait des gnôles dans les villages. Et ça a été bouffé par tous ces whiskies de grande distribution qui ont pris la part de bouche de ces spiritueux traditionnels français.
Certains whiskies ont fait la fortune de grands propriétaires vignerons, William Peel et...
Voilà, tout à fait.
Notamment.
Et donc je suis allé prendre les idées de ces Écossais qui allaient chercher des fûts en France ou en Espagne pour affiner leur whisky. Je suis allé chercher des fûts en Écosse pour affiner nos mares et nos quines. Et donc, on a des produits un petit peu hybrides. Et on a notamment, que j'aime beaucoup pour fumer un cigare, des mares et des fines finies dans des fûts de whisky tourbé, où on n'a pas d'après-pondérance de la tourbe, mais justement un équilibre entre le spiritueux d'origine qui est le mare ou la fine. Et puis,
j'ai apporté de la W03, mais on va commencer par le Pinot Gin.
Ouais,
alors, on va commencer, même finir par le Pinot Gin. Et est-ce que pendant qu'on se déguste ce Pinot Gin, tu peux nous parler justement de ton approche dont tu commençais à parler pour l'élevage ?
Alors, l'élevage, il y a vraiment trois grandes phases. La prise de bois, toute la période de maturité ensuite. Donc, il y a l'enfance. Ensuite, il y a toute l'adolescence qui est la maturité qui peut continuer assez longtemps. Et puis, le finish, et qui va être sur les 6 derniers mois, en fonction de la dégustation, on va travailler tel ou tel spiritueux par rapport à ce qu'on veut obtenir pour la mise en bouteille. Donc on va aller chercher des fûts, par exemple, là j'ai une cuvée mais que j'ai pas encore sortie, où je suis allé chercher des fûts à Banyuls pour donner justement aller chercher cette petite pointe de sucrosité et de gourmandise. On va aller chercher des fûts d'Écosse, on va faire, on a notamment un gin rose qui est vieilli dans des fûts de moscatel. Et puis on va parler de deux autres gins. On avait un gin qui s'appelait le Pulini Gin, mais qu'on a fait en collaboration avec un vigneron.
Je l'ai apporté aussi.
Oui, qu'on n'a pas le droit d'appeler Pulini, c'est ça?
Voilà, et qui s'appelle maintenant Barrel Gin, qui est un gin élevé sur lit. On va sortir au printemps prochain un gin de bâtard.
Gin de bâtard.
Tu veux dire voilà, un super gin, quoi.
Voilà, gin de bâtard.
Un gin
voilà,
pour le 9-3.
Super gin. Voilà, un gin pour le 9-3, mais qui est donc élevé dans un fût de bâtard Montrachet. Ah. Voilà. Et le Pinot Gin, c'est une macération de marc, donc des raisins provenant d'une vigne des Chezeaux.
On est en train de goûter.
Voilà. Et donc là, on c'est pour le côté italien, c'est un gin que j'avais pensé pour faire mes Negronis.
Ah mais alors, parce que tu sais quoi,
elles m'ont beaucoup les Negronis.
Complètement. Moi, c'est un de mes cocktails préférés et j'ai le nez dans le Negroni.
C'est notre cocktail voilà, préféré. Ben, on l'a fait pour ça.
C'est magnifique le Negroni. Si vous ne connaissez pas le Negroni, testez un Negroni. Et en plus, on a ce côté finement amer qui ressort. Il y a une gourmandise, il y a une concentration de fruits rouges et d'écorce d'orange un peu. C'est superbe.
Voilà, ben donc c'est vraiment ce gin, je l'ai imaginé pour ça. On attaque sur le gin, on a le côté floral. Ensuite, on va avoir tout le côté framboise, griotte, des pinots de Bourgogne. Et puis, on finit sur une légère astringence et amertume.
C'est un peu variation autour du gin. Hein. On est quand même loin d'un gin classique. On est quelque chose.
Ah ben, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est un gin cocktail. C'est un gin. C'est ça la beauté de l'appellation gin, qui n'est pas vraiment une appellation, mais c'est pour ça qu'il y en a autant de nouveaux qui sortent, parce qu'il y a des gins nouveaux toutes les semaines. C'est qu'il y a une grande liberté autour de la création dans le monde du gin.
Ça fait penser un peu au slow gin. Enfin, ça me fait penser un petit peu au slow gin.
Il y a un slow gin.
On va se le finir sur le trottoir devant le studio, je pense, parce qu'on va se permettre de.
On va devoir terminer.
Vite, buvez vos verres.
Tranquillement là-dessus. Alors.
Le slow gin.
Ah oui.
Le slow gin, c'est une liqueur de gin.
Est-ce que tu peux nous parler des prix justement des spiritueux qu'on a goûtés, que ce soit la fine, le mar et le gin notamment?
Combien ça coûte ces belles choses?
Combien que ça coûte?
Voilà, j'aime pas trop parler de prix. On essaie de.
Je rappelle juste que c'est 0,3% de ce qui sort d'une vigne.
Si tu devais acheter tout le bâtard Montrachet qui a permis de faire ça. Non, mais c'est intéressant de le dire parce qu'on parle des breuvages, les gens vont peut-être les acheter.
Et puis c'est bientôt Noël.
Non, mais écoutez, on est entre 40 et 80 euros pour le prix d'une bouteille chez les bons cavistes. Et voilà. Et puis après ça, on va retrouver ça en restauration, en cocktail. On est sur des très belles tables parisiennes. On est et provinciales d'ailleurs, hein, puisqu'on est très bien représenté en Bourgogne. On commence à être à l'export. Voilà.
Après, pour relativiser le prix, hein, par rapport à un cognac ou un whisky de bonne tenue, ça tient plus que la comparaison, quoi.
C'est jamais un frein d'être entré chez les cavistes.
Et puis c'est vraiment un travail
raisonnable.
C'est vraiment un produit artisanal. C'est pas donné, mais ça, il y a du boulot derrière, quoi.
Il y a du travail. On
comprend.
Et puis il y a beaucoup de taxes aussi.
Ah, il y a des taxes.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi peu.
Regarde pas.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi peu de bouilleurs ambulants et c'est intéressant de le dire.
Non, mais c'est vrai que la taxation des spiritueux en France, c'est quelque chose d'assez important. Il y a 1800 euros de taxes par hectolitre d'alcool pur.
Eh bien, Mathieu, merci beaucoup. On termine donc sur le slow gin que nous a servi Amélie, qui est une petite pointe gourmande, une petite sucrosité. C'est des prunelles, je dis, c'est ça.
Qu'on a cueilli à la main à Mavilly-Mandelot avec nos enfants. Et ça fait mal aux mains.
Eh bien, on remercie vos enfants.
Voilà.
J'espère qu'ils ont goûté, bien sûr.
La prunelle de vos yeux pour la prunelle dans le verre, c'est parfait.
C'est joli.
C'est magnifique.
Quelle poésie. C'est parfait, Patrice, pour finir là-dessus. Donc, merci. Merci beaucoup, Mathieu, et merci, Amélie, de nous avoir parlé de votre bébé, de Sabs. Et nous, on est ravis d'avoir pu goûter. Et sachez qu'on va continuer une fois l'émission finie.
et non, mais sachez que maintenant, il faut que vous continuiez en venant en Bourgogne, voilà, parce que c'est on ne
le
peut
le casse-croûte.
Au-delà, on a noté le casse-croûte.
Le 26 janvier, la Saint-Vincent tournante à Chambol-Musigny, domaine Amiot-Cervelle. L'alambic sera là.
Chambol, ouais, c'est pas mal. Hein.
Merci beaucoup.
C'est pas mal, une petite amoureuse. C'est le vin préféré d'Amélie. mais c'est vrai que au-delà de distiller, on distille vraiment au cœur des villages. Là, demain matin, j'allume l'alambic à 5h30.
Quel beau métier.
C'est plus que juste un spiritueux, c'est une vie, c'est une expérience. Voilà, c'est du spiritueux vivant, comme Alexandra le disait. Ouais.
Cheers. Et merci Mathieu, merci Amélie, merci Patrice et merci Romain.
Merci Alessandra.
Merci
et à très
de
bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup
pour tout ça. Salut.
Merci, bye. Au revoir. I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Darling, it's